Chapitre 3. Un cabinet de toilette clos avait été installé contre la paroi du fond de l'unique pièce carrée, d'environ 7 mètres de côté. Il jouxtait un placard ouvert qui contenait leurs vêtements, leurs bagages et les matelas qu'ils déroulaient chaque soir. La première nuit, Nicole se coucha entre Ali et Nikki. La table et les chaises, le seul mobilier, les séparaient de Max, d'Éponine et de Marius. Elle était si lasse qu'elle s'endormit avant même l'extinction des feux. Après 5 heures d'un sommeil sans rêve, elle s'éveilla en sursaut et se demanda où elle était. Puis elle pensa à la soirée précédente et tenta d'analyser ses émotions. Sitôt après son arrivée, Nikki était allée chercher les autres dans la pièce voisine. Pendant 2 heures, ils avaient été 11 dans ce logement exigu. Elle avait parlé à chacun d'eux, sans pouvoir toutefois approfondir un seul sujet. Elle fut surprise par la réserve de Kepler, de Marius, de Nikki et de Maria, une jeune fille brune aux yeux bleus et à la peau cuivrée qui la remercia longuement de l'avoir sauvée. Lors de son bref tête-à-tête avec sa grand-mère, Nikki se montra tendue et méfiante. Nicole crut même lire de la crainte dans son regard. Mais Ali lui déclara ensuite qu'elle devait être intimidée par les nombreuses histoires qu'on racontait sur sa grand-mère. Les jumeaux furent polis, mais gardèrent leur distance. Et quand elle vit Kepler la fixer en fronçant les sourcils, elle prit conscience qu'elle était la première personne âgée qu'il voyait. Les jeunes hommes n'aiment pas les vieilles femmes. Leurs fantasmes en prennent un coup. Quant à Benji, il l'étreignit avec force et extériorisa sa joie par un cri. Elle s'étonna que son crâne eût commencé à se dégarnir avant de se rappeler qu'il était désormais un quadragénaire. L'accueil de Patrick et d'Ali fut très chaleureux. Ali était visiblement lasse et se disait surmenée. Elle avait pris l'initiative d'encourager les contacts entre les humains et les extraterrestres.
C'est le moins que je puisse faire. Je suis la seule à connaître le langage des octopodes. Je compte sur toi pour m'aider lorsque tu auras à recouvrer tes forces.
Patrick lui avoua qu'il s'inquiétait pour sa femme. Elle est furieuse parce que les robots ont emmené Galilée sans fournir d'explications et qu'elle ne peut passer que 2 heures avec lui chaque jour. Naï avait changé. Ses yeux avaient perdu leur éclat et leur douceur, et son attitude était négative.
Nous vivons sous une dictature encore plus tyrannique que celle de Nakamura,
lui dit-elle.
Quand vous vous serez installé, j'aurai bien des choses à vous dire.
Max Puckett et Éponine avaient naturellement vieilli, mais l'affection qu'ils se portaient les soutenait. Éponine haussa les épaules lorsque Nicole lui demanda si cette promiscuité ne lui était pas trop pénible.
J'en ai l'habitude. J'ai passé mon enfance dans un orphelinat. Et je suis ravi d'être en vie auprès de Max et de Marius. J'ai longtemps cru que je mourrais avant d'avoir un seul cheveu gris.
Quant à Max, il n'avait pas changé. Sa toison avait blanchi et sa démarche était moins énergique, mais on lisait toujours dans ses yeux un amour profond de la vie.
Il faut absolument que je vous présente un type que je rencontre souvent dans le fumoir,
dit-il.
C'est un de vos plus grands admirateurs. Sa femme a été victime de l'épidémie et il s'en est tiré par miracle. Il est plus jeune que vous, mais je ne crois pas que ce sera un problème.
Nicole l'interrogea sur les sujets de tension entre les humains et les octopodes.
La guerre est finie depuis 15 ou 16 ans, mais comme nous avons dormi entre-temps, aucun souvenir n'est venu estomper le ressentiment. Tous ont perdu un ami, un parent ou un voisin. Et ils ne peuvent oublier qui leur a envoyé cette maladie.
Dans un but uniquement défensif.
Nos semblables ne voient pas la situation sous le même jour que vous. Ils préfèrent croire la propagande de Nakamura plutôt que la version officielle des faits que l'aigle leur a exposée peu après notre transfert dans l'étoile de mer. En fait, la plupart des hommes redoutent et haïssent les octopodes. Malgré les efforts d'Ali, seuls 20% d'entre eux ont tenté d'établir un contact. Tous les autres ne sortent pas de ce secteur, et le manque d'espace vital n'est pas fait pour arranger les choses. »
Elle cessa de penser à ce qui s'était passé la veille et se tourna vers Ali. Sa fille dormait et elle remarqua que ses paupières se contractaient.
« Elle rêve, et j'espère que ce n'est pas de Robert. Mais l'aigle savait ce qu'il faisait en me gardant en vie. Tant que je ne serai pas invalide, je pourrai encore me rendre utile. »
« Le moment est venu pour vous de découvrir le grand hôtel !» lui dit Max. « Chaque fois que je vais à la cafétéria, ça me rappelle la fête de l'abondance dans la cité d'Émeraude. Les créatures qui accompagnent les octopodes sont fascinantes, mais j'avoue que je me sens plus à mon aise quand il n'y en a pas dans les parages. »
« On doit vraiment y aller, papa ?» demanda Marius. « Nicky a peur des iguanes. Ils nous lorgnent avec leurs yeux jaunes et ils font des bruits de mastication répugnants. » « Attends avec Nicky l'heure qui nous est réservée, fiston. Nicole souhaite déjeuner avec tous les résidents. C'est pour elle une question de principe. Ta mère et moi, nous allons l'accompagner pour lui expliquer comment tout fonctionne là-bas. »«
Restez !» dit Nicole. « Ali ou Patrick ?»«
Nous sommes ravis de nous joindre à vous. En outre, Patrick est allé voir Galilée avec Naï. Ali est dans la salle de jeu et Benji lit avec Kepler et Maria. »
« Merci, Max. Je dois me faire une idée précise de la situation. L'aigle et le docteur Bleu ne m'ont pas fourni beaucoup d'explications. »«
Elles auraient été inutiles. Je savais que vous rejetteriez ces pratiques ségrégationnistes. Je vous connais bien. »
Éponine les rejoignit et ils sortirent dans le couloir presque désert où ils attendirent le tram 2 ou 3 minutes. Ils approchaient du dernier arrêt quand Max se pencha vers elle pour lui dire
« Le couple que vous voyez à l'entrée de ce bras fait partie du conseil. Ce sont deux arrivistes aux opinions bien tranchées. »
« Que veulent-ils »
demanda-t-elle en descendant du véhicule.
« Je pense que nous n'allons pas tarder à le savoir. »
« Bonjour, Max, » dit l'homme. « Bonjour, Éponine. »
Cet individu corpulent d'une petite quarantaine d'années arbora un sourire de politicien pour se tourner vers Nicole.
« Madame Whitefield, je présume ?»
fit-il en lui accordant une poignée de main énergique.
« Nous avons tant entendu parler de vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Stephen Kowalski. »«
Moi, c'est René Dupont, »
dit la femme en tendant la main à son tour. Après quelques échanges de banalités, Kowalski leur demanda où ils allaient.
« Déjeuner !»
répondit Max avec concision. L'homme regarda sa montre sans se départir de son sourire.
« L'accès à la cafétéria est encore ouvert à toutes les espèces. Attendez 3 quarts d'heure et nous nous joindrons à vous. Nous appartenons au conseil et nous souhaiterions parler à Madame Wakefield des buts que nous poursuivons. »
« Merci, Stephen, mais la faim nous tenaille. »
Kowalski se renfrogna.
« Je m'en abstiendrai si j'étais vous. La tension est importante depuis l'incident qui a eu lieu hier dans la piscine. Le conseil s'est prononcé à l'unanimité pour un boycott de toutes les activités collectives pendant 2 jours. Émilie a été tout particulièrement irritée d'apprendre que Grosbrick a placé Garland en liberté surveillée sans prendre aucune sanction contre l'octopode. C'est la 4e fois que les robots sont aussi partiaux.
On m'en a parlé hier soir, Stephen. Garland était toujours dans le bassin, 1 quart d'heure après la fin du temps qui nous est alloué. Et c'est lui qui a agressé l'octo.
C'était une provocation,
intervint la femme.
Il n'y avait que 3 de ces extraterrestres dans la piscine. Ils auraient tout de même pu éviter de nager dans le même couloir que Garland.
« Le conseil estime que ces détails sont secondaires, » déclara Stephen. «
L'important, c'est de faire comprendre aux robots et aux octopodes que nous sommes solidaires. Nous nous réunirons ce soir pour dresser une liste de doléances. »«
Merci de nous tenir au courant, »
dit Max avec colère.
« Maintenant, laissez-nous passer. » »«
Vous commettez une erreur, » gronda Kowalski. « Vous serez les seuls humains dans la cafétéria. » Et nous signalerons naturellement votre attitude lors de la réunion de ce soir.
On y va !»
décida Max. Ils sortirent dans le couloir circulaire du noyau de l'étoile de mer.
« Quel est ce conseil ?»
voulut savoir Nicole.
« Un groupe de mauvais coucheurs qui se sont proclamés les représentants de tous les hommes. Ils n'avaient au début aucun pouvoir, mais ils commencent à prendre de l'importance. Ils ont même recruté Naï en lui promettant qu'il l'aiderait à obtenir la libération de Galilée. »
Le tram s'arrêta et un couple d'iguanes en descendit. Deux robots vinrent aussitôt s'interposer entre eux et les humains. Nicole se souvint de l'attaque contre Nikki lors de la célébration de la fête de l'abondance.
« Que font-ils ici ? »
demanda-t-elle à Max lorsqu'ils furent à bord du véhicule.
« Je les croyais trop turbulents. »
« Grosse Brique et l'Aigle nous ont expliqué que ces créatures jouent un rôle essentiel dans la production du sucre inhibiteur sur lequel repose toute la société des octopodes. Les détails m'ont échappé, mais j'ai cru comprendre que leurs œufs entrent dans le processus de fabrication. »
Ils approchaient de la cafétéria.
« Les iguanes ont-ils été à l'origine de nombreux incidents ?»«
Si on fait abstraction de la propagande du Conseil, on constate que très peu d'accrochages leur sont imputables. Ce sont presque toujours des humains qui leur ont cherché noise, comme le soir où Galilée a piqué une crise de colère et en a tué deux. »
Il remarqua la réaction de Nicole et ajouta
« Cette affaire a divisé notre groupe, mais j'ai promis à Éponine de ne pas vous en parler avant que vous ayez pu entendre la version de Naï. »
Une douzaine de petits robots ressemblant à grosses briques assuraient le service dans la cafétéria et six autres montaient la garde. Quand Nicole et ses amis entrèrent, 400 ou 500 octopodes, dont 2 repus et près d'une centaine de minimorphes, étaient présents dans la salle. Un grand nombre se tournèrent pour les regarder. Une douzaine d'iguanes, assis non loin de la file d'attente, interrompirent leur repas pour les lorgner avec méfiance. Nicole s'étonna de la diversité des mets. Elle prit du poisson et des pommes de terre, ainsi qu'un fruit et du miel à la saveur d'orange.
« D'où provient toute cette nourriture fraîche ?»
Max leva un doigt.
« Le niveau supérieur est réservé à la culture et à l'élevage. La bouffe est bonne même si le conseil se plaint que nous manquons de viande. »
Elle avait avalé 2 bouchées quand il se pencha vers elle pour murmurer
« Je dois vous avertir qu'on s'intéresse à vous. »
Elle se tourna. 2 octopodes approchaient. Elle aperçut à la bordure de son champ de vision grosses briques en fer autant.
« Bonjour Nicole, » dit le premier extraterrestre. « Nous nous sommes connus à l'hôpital de la cité d'Émeraude où je servais d'assistant au docteur Bleu. Je tenais à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre aide. »
Elle chercha en vain une caractéristique qui lui eût permis de le différencier de ses congénères.
« Désolé, »
fit-elle,
« je n'arrive pas à vous situer. Vous m'appeliez laiteux parce que je venais de subir une intervention de chirurgie oculaire et que le fluide de ma lentille était encore blanchâtre. Mais oui, je m'en souviens parfaitement. Nous avons eu une longue discussion. Vous ne pouviez croire que nous laissions nos semblables mourir de vieillesse, même lorsqu'ils avaient cessé depuis longtemps d'être utiles à la société. C'est exact. J'aurais pu nier à vous déranger en plein repas, mais mon ami tenait à vous rencontrer et à vous remercier, »
déclara son compagnon.
« Le docteur Bleu dit que vous avez été un exemple pour nous tous. »
D'autres octopodes se levèrent et vinrent se placer derrière eux. On pouvait lire autour de leur tête le mot « merci ». Profondément émue, Nicole se leva et leur dit
« Merci à tous pour cet accueil si chaleureux. »
Puis elle regarda sur sa droite et vit Ali arriver en compagnie de Nikki.
« Je suis venue dès que j'ai su, »
lui dit sa fille en l'embrassant sur la joue.
J'aurais dû me douter que je te trouverais ici.
J'ai expliqué aux membres du conseil que vous veniez d'arriver et ne pouviez avoir conscience de l'importance de ce boycott.
Dinaï.
Je crois qu'ils ont compris.
Elle ouvrit la porte et Nicole la suivit dans la buanderie. Nai jeta son dévolu sur les machines installées de l'autre côté de la salle, loin des oreilles indiscrètes.
Je vous ai demandé de m'accompagner parce que je voulais vous parler de Galilée. Excusez-moi, mais je m'inquiète tant pour mon fils que...
Je comprends, Nai. Je suis une mère, moi aussi.
Je suis au désespoir. J'ai besoin de votre aide. Cela m'a encore plus affecté que l'assassinat de Kenji. Même la méditation ne peut m'apporter un semblant de sérénité.
Elle alla fourrer le linge dans trois machines à laver, puis revint vers Nicole.
Je suis la première à admettre que la conduite de mon fils n'a pas été exemplaire. Après notre réveil et notre transfert à bord de ce vaisseau, il s'est renfermé sur lui-même. Il n'assistait pas aux cours que Patrick, Ali, Éponine et moi organisions pour les jeunes. Il était amer et agressif envers tout le monde, Maria exceptée. Il ne m'a jamais parlé des sentiments qu'elle lui inspirait. L'unique activité qui lui plaisait, c'était de faire de la musculation dans la salle de gymnastique. Il était très fier de sa force physique. Il n'est pas mauvais, seulement désorienté. Il s'est endormi à 6 ans et s'est réveillé à près de 22, avec un corps et des désirs de jeune homme.
Elle s'interrompit, les yeux brillants de larmes.
J'ai essayé de l'aider en vain. Je ne sais pas quoi faire. Je crains qu'il ne soit trop tard.
Nicole se rappelait ses nuits d'insomnie, à l'époque où Cathy avait été la cause de tant de soucis.
« Je comprends, »
dit-elle.
« Je comprends vraiment.
Je n'ai vu qu'une fois ce qu'il cache derrière une façade d'indifférence hautaine. C'était le milieu de la nuit, juste après cette histoire avec Maria. Il revenait d'un entretien avec Grosse Brique et nous étions seuls dans le couloir. Il pleurait et martelait la cloison avec ses poings et il m'a crié qu'il n'avait pas voulu lui faire de mal, qu'il l'aimait. Que cela avait été plus fort que lui.
Que s'est-il passé entre eux?
Oh, je vous croyais au courant. Max a dit que Galilée aurait violé Maria si Benji n'était pas revenu au bon moment. Plus tard, il a reconnu qu'en parlant de viol, ses propos avaient dépassé sa pensée, que mon fils avait simplement perdu la tête. Galilée m'a affirmé que Maria l'avait encouragé à l'embrasser. Elle ne l'a pas repoussé quand ils ont roulé sur le sol. Elle n'a protesté que lorsqu'il a baissé sa petite culotte. Il n'a utilisé la force qu'ensuite.
Nai tenta de retrouver son calme.
Il m'a avoué qu'il l'avait frappée pour l'empêcher de hurler, tout en continuant de la déshabiller. Il avait verrouillé la porte. Et Benji l'a défoncé et s'est jeté sur lui. Le tapage a attiré Grosse Brique et des curieux.
Vous avez dû passer des moments très pénibles,
compatit Nicole.
Cela a brisé ma vie. Tous ont condamné mon fils. Lorsque Grosse Brique l'a placé en liberté surveillée et l'a renvoyé dans nos quartiers, Max, Patrick et même Kepler ont estimé que la sanction était trop légère. Et quand j'ai laissé entendre que Maria avait peut-être sa part de responsabilité dans ce qui s'était passé, tous m'ont rétorqué que je refusais de regarder la vérité en face. « Cette garce a su s'y prendre !»
ajouta Nai avec acrimonie.
Elle a dit qu'elle avait embrassé Galilée de son plein gré, en précisant que c'était la troisième fois. Mais elle a soutenu qu'elle avait dit non lorsqu'il l'avait entraînée sur le sol. Elle a pleuré pendant 1 heure après l'incident. Elle pouvait à peine parler. Tous les hommes ont essayé de la consoler, même Patrick. Ils étaient convaincus avant même d'entendre sa version des faits qu'elle n'avait absolument rien à se reprocher.
Un tintement,
leur signala la fin du cycle de lavage. Nai se leva lentement, puis alla placer le linge dans deux séchoirs.
« Nous sommes convenus que Maria irait vivre avec Max, Éponine et Ali, »
reprit-elle.
« Je pensais que le temps cicatriserait les blessures. Je me trompais. Tous ont fui Galilée comme un pestiféré. Kepler ne lui adressait plus la parole. Patrick était poli, mais distant. Galilée s'est encore plus renfermé sur lui-même. Il n'allait plus à l'école et passait tout son temps dans la salle d'haltérophilie. Il y a 5 mois, j'ai abordé Maria pour l'implorer d'aider mon fils. C'était humiliant, mais j'avais déjà demandé à Patrick, à Éponine et même à Ali d'intercéder en sa faveur. Seul Ali avait donné son accord pour venir me dire sitôt après que je devrais faire moi-même les premiers pas. Maria a finalement accepté de parler à Galilée après m'avoir imposé une harangue sur le fait qu'il l'avait souillée. Elle a également stipulé que je devrais être présente lors de l'entretien afin d'éviter tout risque d'incident.
Nai secoua la tête.
Je vous demande un peu, comment une fille de 16 ans ayant passé la quasi-totalité de son existence plongée dans un sommeil profond aurait-elle pu avoir de telles exigences? J'imagine que Max et Éponine lui avaient prodigué leurs conseils. Maria voulait m'humilier et faire souffrir mon fils. Elle a réussi.
J'ai connu des gens qui savaient dès un très jeune âge affronter d'instinct n'importe quelle situation,
dit Nicole.
Maria en fait peut-être partie.
Nai ne releva pas son commentaire.
La rencontre s'est bien passée. Galilée est restée calme et Maria a accepté ses excuses. Pendant quelques semaines, elle a fait le nécessaire pour qu'ils puissent participer à leurs activités. Mais il était toujours un étranger au sein de leur groupe. Je m'en suis rendu compte et je pense qu'il en a fait autant. Puis un jour, alors qu'ils étaient tous les 5 dans la cafétéria, 2 iguanes se sont assis à l'autre extrémité de leur table. Selon Kepler, ils ont fait exprès d'être abjects. Ils plongeaient la tête dans leur bol pour aspirer avec des bruits répugnants ces vers dont ils raffolent. Nikki et Maria ont déclaré qu'elles avaient perdu leur appétit. Galilée s'est levé et est allé vers les reptiles pour leur intimer de s'éloigner. Mais comme ils n'obéissaient pas, il a fait un autre pas. Une de ces sales bestioles a bondi sur lui. Galilée l'a saisi par le cou et lui a rompu les vertèbres. L'autre iguane l'a mordu à l'avant-bras. Avant l'arrivée des robots, mon fils lui avait défoncé le crâne sur l'angle de la table.
Ce fut avec apathie que Nai termina son histoire.
Ils l'ont emmené. 3 heures plus tard, Crossbrick est venu nous annoncer qu'il serait isolé dans une section différente du vaisseau. Quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit « Nous estimons que la conduite de votre fils est inacceptable. »
Des tintements annoncèrent la fin du cycle de séchage. Nicole et Danaï a plié les draps.
« Je ne peux le voir que 2 heures chaque jour. Il souffre même s'il est trop fier pour se plaindre. Le conseil l'a inscrit sur la liste des 5 humains en détention arbitraire, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. »
Elle posa la main sur le poignet de Nicole.
« Voilà pourquoi je réclame votre aide. L'aigle est d'un rang supérieur à Crossbrick et il a beaucoup de considération pour vous. Accepteriez-vous d'intercéder en faveur de Galilée ?»«
Il le faut, »
dit Nicole en sortant ses affaires du placard.
« J'aurais dû m'installer à côté dès mon arrivée. » »«
Nous en avions longuement parlé, »
répondit Ali.
« Nai a estimé qu'il était normal que Maria retourne là-bas et que tu vives avec nous. »
Nicole posa les vêtements sur la table et regarda sa fille.
« Tu sais, je ne suis ici que depuis quelques jours, mais une chose m'étonne, l'importance qu'on accorde aux petits problèmes quotidiens. Je ne me réfère pas à Nai et à ses soucis, mais aux gens à qui j'ai parlé dans la cafétéria et les autres salles communes.
ils ne s'interrogent pas sur la finalité de tout ceci. Seules deux personnes m'ont posé des questions sur l'aigle, et devant la baie d'observation, alors que nous admirions ce tétraèdre majestueux, nul ne s'est demandé qui pouvait l'avoir construit et dans quel but.
Nous sommes à bord depuis un an, rétorqua Ali en riant. Ces sujets ont été au centre de toutes les discussions pendant de nombreuses semaines. Mais lorsqu'on ne trouve aucune réponse, il est naturel de laisser les questions en suspens en attendant de disposer d'informations complémentaires.
Elle prit les affaires de sa mère.
Nous avons dit à tout le monde de ne pas te déranger. Hier soir, le docteur Bleu m'a déclaré en partant que ton cœur donnait des signes de fatigue, malgré les sondes supplémentaires.
Monsieur Kowalski n'a pas dû être heureux de voir un octopode dans notre secteur.
Je lui ai fourni des explications. Grosse brique également. Ne t'inquiète pas pour ça.
Merci, Ali,
dit-elle avant de déposer un baiser sur la joue de sa fille.